Mes récompenses Sonic, c'est le programme qui désire exaucer tous tes souhaits. C'est simple. Plus tu utilises ta carte du programme Mes récompenses Sonic durant les mois de mars et d'avril, meilleures sont tes chances de remporter 5000 $ pour réaliser tes plus grandes folies. Visite l'une de nos stations Sonic et comble tes envies.
Ici Ricardo.
Et Émilie, marchande IGA.
On a envie de vous inspirer à bien manger.
À moins de 5 $ la portion.
Suffit de repérer les produits Valeurs Sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
Les Valeurs Sûres, c'est bien pensé, hein?
Bien sûr!
Détails sur IGA.net.
Alexandre Dubé. Cube Radio. Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre.
Nouvelle rencontre.
Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous.
Cube Radio.
Une radio pas comme les autres.
Dominique Gagnon est président de Connect & Go. Salut Dominique, bon lundi à toi.
Toi aussi Alex, t'as passé un beau week-end.
Hey, oui, j'étais en congé en fin de semaine. Puis je me suis abusé, j'ai fait du wake surf.
Ça c'est le fun, hey, ça c'est très très le fun effectivement.
J'avais fait
besoin d'équilibre.
Eh oui, mais moi j'avais fait un peu de wakeboard quand j'étais ado, là, mais mon adolescence remonte quand même à il y a une vingtaine d'années. Mais du wake surf, c'était la première fois que je faisais ça. Pour ceux et celles qui savent pas nécessairement ce que c'est, donc c'est comme une petite planche de surf. Et la différence avec du wakeboard, c'est qu'on n'a pas les pieds attachés. Alors là, je me demandais, est-ce que ça va être difficile à lever? Est-ce que ça va être stable? Finalement, je suis étonné, c'est très stable. Et c'est vraiment un feeling très, très cool. Vraiment, j'ai aimé. À suivre, peut-être que...
Je sais pas si t'as vu les surfs électriques.
Ah oui!
Une nouvelle tendance qu'on
oui.
voit de plus en plus.
J'ai jamais essayé, par exemple. Ah oui?
Complètement fou, en fait, le feeling d'être sur l'eau. D'avoir l'impression d'être sur un bateau, sur une planche. Avec une télécommande hein, qui fait un peu penser aux trottinettes électriques ou aux longboards électriques qu'on voit de plus en plus dans les rues, mais c'est vraiment un beau feeling.
Ah oui, non, c'est vrai. Alors, ça fait partie des joies de l'été hein, chez nous, de s'amuser sur l'eau. Mais dis-moi, raconte-nous l'histoire de Billion Dollar Code, hein, cette start-up qui avait perdu $1 milliard. Ça avait fait une série aussi, hein, je pense.
Exactement, c'est une série qui est sur Netflix. Ouais. Il y a quelques bonnes séries, puis je vais probablement me mettre à en parler d'une par semaine. Il y a aussi What If en ce moment, qui s'appelle Dilemme en français. Okay. Si vous avez une série à écouter là, qui parle d'une entreprise en biotechnologie et du milieu du capital de risque, qui est parfois assez difficile. Mais la série The Billion Dollar Code, c'est une série dans laquelle je suis rentré de manière fascinée, qui est une histoire vraie. Hein. Donc, on n'est pas ici là dans une série dans laquelle on essaie de montrer un petit peu une fausse réalité. C'est vraiment une histoire qui s'est vécue et qu'on se rapporte. Je ne sais pas si tu as déjà utilisé la solution de Google Earth, donc la solution qui permet sur Google de voir en trois dimensions des villes. Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà utilisé?
Oui, ben, j'explore un peu. Oui, c'est intéressant ça.
C'est toujours amusant. Moi, souvent, quand quelqu'un me donne une adresse, j'aime ça aller voir la
c'est
maison.
Ça,
je suis un peu curieux.
Oui. Hein, mon père fait ça constamment. Voir. Oui.
Exactement. Puis souvent, on pense que c'est Google qui a inventé ça. En fait, souvent, on pense que c'est ce qu'on appelle les GAFA, Google, Amazon, Facebook, qui ont inventé énormément de choses, mais assez souvent, c'est pas nécessairement eux qui l'ont inventé. Et l'histoire de The Billion Dollar Code, en fait, dit que c'est cette entreprise-là qui est née après le Berlin de la guerre froide d'un étudiant en informatique qui avait simplement un rêve, en fait. Lui, il s'était dit, ben pourquoi on ne pourrait pas être capable de visiter tout le monde à partir de son ordinateur? Ouais. Donc, on s'entend, là, il était vraiment dans les premiers à faire ça. Et il a décidé de créer cette innovation-là. Mais ce qui s'est passé, c'est que Google ont volé l'idée. Et je vais raconter un petit peu comment ça s'est passé. Mais ça arrive très, très souvent, en fait, dans le milieu technologique, que des Uber de ce monde, des Airbnb de ce monde vont aller prendre des idées si elles ne sont pas bien protégées. Donc, The Billion Dollar Code, aujourd'hui, ont fait plusieurs erreurs qui fait qu'ils ont perdu, effectivement, plus $1 milliard en ne s'étant pas bien protégés.
Quelles ont été ces erreurs-là? Ouais, quelles ont été ces erreurs-là, essentiellement, Dominique?
Donc, la première chose, c'est que l'erreur numéro un, c'est de pas s'être rendu compte qu'il y avait quelque chose qui valait la peine d'être volé. Donc, la start-up qu'il avait créée à ce moment-là a été créée par plusieurs gens dans le milieu du piratage informatique. Donc, c'était vraiment des geeks, là, des pur geeks avec l'image classique du pur geek dans un sous-sol qui voit rarement le jour. Et en fait, ce projet-là s'appelait TerraVision, puis elle offrait justement aux gens un moyen de parcourir la Terre. Donc, eux, c'était dans leur tête, c'était une bonne idée, mais c'était pas une idée qui allait nécessairement pouvoir être volée. Et un des problèmes qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont décidé de diffuser, qui est l'erreur numéro deux, de diffuser publiquement leur idée. Donc, ils en étaient fiers. Hein. Souvent, on crée quelque chose d'innovation. Et ils ont fait un événement avec Deutsche Telekom, qui était un de leurs investisseurs, lors d'une grande conférence technologique. Et ils ont montré, en fait, la technologie à tout le monde avant d'être breveté.
Ah, OK, c'est ça.
Les gens oublient.
Oui, oui, ben c'est ça, parce que j'étais pour dire, ben, il me semble qu'il y a une protection, il y a des brevets, il y a des droits d'auteur, il y a des droits de propriété intellectuelle, mais eux avaient pas fait ça, donc ils ont fait l'étape inverse. Ils s'en sont vantés avant de l'avoir. Ah oui, OK.
Ça arrive souvent, il y a des startups, moi, que je conseille, qui disent, ah, on va faire un communiqué de presse sur une nouvelle innovation qu'on lance en intelligence artificielle ou innovation. Je dis, dès le moment que vous parlez de votre idée, elle n'est plus brevetable. Donc, elle devient... du domaine public.
Okay.
Ce qui veut dire que le public a le droit de se l'approprier.
C'est intéressant ce que tu dis là. Ça, je savais pas.
On entend souvent parler d'un petit peu les coulisses de l'importance de garder les idées privées.
Ouais.
Il y a eu plusieurs sur Theranos. Il y a eu un excellent livre et documentaire sur cette entreprise-là. À quel point la fondatrice était aussi, dans ce cas-là, pour les mauvaises raisons, mais obsédée par la vie privée. Parce que définitivement, si on rend public notre idée, elle devient du domaine public. Ce qui veut dire que quelqu'un peut le prendre. La troisième erreur, ben, c'est aussi d'avoir fait confiance beaucoup trop rapidement. Comme beaucoup de jeunes dans le domaine de la technologie, on est enthousiaste, on rencontre d'autres gens. Et dans la série, ben, on voit qu'un des fondateurs de la start-up rencontre avec enthousiasme un autre entrepreneur technologique. C'est quoi les détails de l'algorithme de TerraVision? Donc, dans la série, ce qu'on voit, c'est que les deux ont pris quelques cocktails.
Ah,
la personne à qui il va se confier est une personne de très grande crédibilité dans le milieu technologique, qui est très connue. Donc, évidemment, quand on a inventé quelque chose, ben souvent, on a envie d'en parler, on a envie de prouver que c'est très, très intéressant. Et le fondateur a été un peu naïf parce qu'il pense qu'il partage son idée avec une autre personne. Mais ce qui s'avère dans la situation, c'est que cet entrepreneur-là, à lequel il a donné les infos de l'algorithme, est devenu le fondateur de Google Earth.
Aïe, t'imagines. Et il a donné ça tout cuit dans le bec, sur un plateau.
Exactement. Oh. Et le dernier, donc la dernière étape qui fait que tout ça est très mal terminé, c'est d'essayer de faire des trucs juridiques eux-mêmes. Souvent, on n'a pas les moyens financiers, on sait ce que ça coûte, des avocats, 250, 400, 500, 1000 $ de l'heure aujourd'hui pour avoir accès à des bons avocats. Donc, l'un des fondateurs a décidé de rédiger lui-même sa demande de brevet. Puis la start-up l'avait soumis elle-même. Donc, ce qui s'est passé, évidemment, c'est qu'ils ont assisté à des réunions avec Google, ils ont répondu à des courriels de Google, en même temps, en parlant de l'achat potentiel. Parce que Google s'est dit, bah, c'est une super technologie, on l'entend parler, ce serait peut-être plus simple de l'acheter. Donc, évidemment, ils se sont mis à discuter d'un achat. Et la stratégie des grands joueurs, c'est de mettre une valeur sur cet achat. Donc, de dire, OK, nous, on serait prêt à vous faire une offre de 5 millions de dollars pour les fins de la discussion. Et là, par exemple, il y a des négociations, la compagnie serait intéressée à acheter, donc à accepter l'offre d'achat de 5 millions. Mais Google dit, après réflexion, ça nous intéresse plus, on veut plus vous acheter. Dès le moment que vous avez dit, je serais d'accord d'être acheté pour 5 millions de dollars, vous venez de mettre une valeur sur votre entreprise et sur votre innovation. Donc, ce que Google a fait à plusieurs reprises et dans plusieurs compagnies de technologie, ben, c'est de faire une offre, de retirer l'offre. Donc, évidemment, le vendeur, lui, pensait aussi venir avec un bon job, être acheté par Google, retirer l'offre. Et une fois que tu poursuis Google en disant, vous avez retiré votre offre, ils disent, OK, mais le maximum qu'on va payer pour régler la poursuite, c'est ce que vous dites que ça vaut 5 millions.
Donc, 5 millions.
Et ça va vous coûter probablement 5 millions en avocat.
Aïe, aïe, aïe. Donc, ils s'en sauvent de cette façon-là.
Ils s'en sauvent de cette façon-là. quand on regarde là, vraiment Google et tout ça, on a acheté des dizaines et des dizaines de startups. C'était un modus operandi qui a été défini aux États-Unis sur lequel les grands de la technologie ont souvent utilisé ça. Et là, on parle de Google, mais ça a été fait là, par Facebook, ça a été fait par plusieurs comme stratégie avec des startups très innovantes en technologie. Mais des gens qui avaient peu de conseillers, peu de conseils en affaires, peu d'expérience en affaires. Donc, on a parlé, les incubateurs, les accélérateurs.
Oui.
Ça permet entre autres un peu de se protéger de ça. Parce que définitivement, il y a énormément de batailles juridiques qui se passent dans le domaine des brevets et de la propriété intellectuelle. Et c'est très, très dangereux de s'aventurer dans ce milieu-là.
Ça joue dur. Je pensais pas que ça jouait aussi dur que ça, Dominique.
Ça joue très dur. Je peux même te parler d'un concept américain surprenant. Il y a des regroupements d'avocats qui se mettent ensemble donc et qui créent un fonds d'investissement, qui font des poursuites sans réelle raison. Mais il y a le coût à une poursuite. Donc, demain, par exemple, Connect & Go pourrait être poursuivi par un groupe américain en disant qu'on a volé un brevet.
Okay.
Même si c'est complètement faux, de se défendre de cette poursuite-là nous coûtera probablement 2 et 3 millions.
Aïe.
Donc, ce qu'on risque de vouloir faire, c'est de régler à un demi-million, même si on n'a aucune raison. Et c'est un fonds d'investissement d'avocats qui garantit un rendement sur l'argent.
Et ils font ça. Sérieux?
Ça joue très, très dur.
C'est incroyable. J'en reviens pas. Sincèrement, j'en reviens pas.
C'est troublant. Sincèrement, on le voit là. C'est quand on entend les coulisses de Instagram avec Facebook, les acquisitions, ouais, etc. Le milieu des affaires est un milieu dur, est un milieu dans lequel il faut énormément être méfiant, surtout quand on commence à parler de vraie innovation. Tu sais, quand on parle d'une petite invention, mais là, quand on parle de vraie innovation, c'est définitif parce qu'on le voit à quel point TikTok est en train de prendre des parts de marché à Instagram. Je peux te garantir qu'Instagram aurait aimé tuer TikTok ou acquérir TikTok, évidemment, avant que ça devienne ce que c'est. Ouais. Donc, les grands géants de la techno sont souvent en train de se promener un peu partout puis de regarder qu'est-ce qu'ils peuvent acheter. Je pense à une startup montréalaise, VR Niva, comme Nirvana avec VR au début, a été achetée par Apple. Puis c'est une compagnie montréalaise qui a inventé les nouvelles lunettes que Apple vont lancer au niveau de la réalité virtuelle. Ça a été acheté pour quelques millions de dollars, ce qui va probablement valoir des centaines de millions chez Apple. Mais ils l'ont acheté très tôt pour s'assurer de prendre la propriété intellectuelle et de pas se créer des nouveaux concurrents.
Très intéressant, Dominique. Merci pour ton expertise de nous avoir partagé ça aujourd'hui. Puis on fait ça demain.
On se parle demain. Bye.
Salut.